Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. L'info est dans le Parisien aujourd'hui en France. Un nouveau chèque voit le jour en 2023. Un chèque transport d'un montant de 50 euros versé en une fois aux abonnés modestes des trains du quotidien, les TER, les Transiliens. Donc un nouvel élément de ces boucliers anti-inflation. Comment mieux partager la valeur ? Olivier Dussopt a demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir une négociation nationale sur le partage de la valeur, mais d'ores et déjà, il promet des mesures inscrites dans le budget 2023, budget qui est présenté là, tout de suite. C'est la semaine prochaine en Conseil des ministres. Le Royaume-Uni met le paquet, alors sur les ménages, on le savait, en limitant la hausse de la facture d'énergie de l'ensemble des ménages britanniques, en moyenne à 2500 livres par an pendant 2 ans. Et hier, le gouvernement annonce que la moitié de la facture d'énergie des entreprises sera payé par l'État l'hiver prochain, donc pendant 6 mois. Est-ce qu'il faut effectivement aller dans cette direction chez nous en France? L'autre grande actualité économique du jour, c'est la Réserve fédérale qui monte ses taux de 75 points de base. La Fed assume de créer du chômage pour freiner l'inflation. Jérôme Powell a été très clair. Entre 3,7% de chômage et 8,3% d'inflation, mon ennemi est l'inflation. Donc oui, il y aura plus de chômage pour juguler l'inflation. On en parlera parce qu'on est aussi, nous, devant une situation un petit peu compliquée par rapport à cette tendance des prix. L'histoire des retraites, Elisabeth Borne voit les groupes parlementaires aujourd'hui, déjeune demain avec Emmanuel Macron. L'opposition à cette réforme est unanime, que l'on regarde du côté des partenaires sociaux ou de l'opinion. Et c'est notamment la méthode, l'amendement dans la loi de finances de la Sécu, avec probablement un 49-3 à la clé, qui ne passe absolument pas. Gilles Berset, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit « Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique » chez Odile Jacob. Jérôme Dédéon, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Assuré de tout sur mesfinances.com, associé, j'ai dit assuré je crois, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous, et Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit La Grande Rupture, réconcilié Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Encore un chèque. Un chèque de 50 euros qui sera versé en une fois, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France. C'est une information de presse, mais qui est quand même bien renseignée. Uniquement pour les abonnés au transport du quotidien, les Transiliens, les TER, donc pas le TGV. Avec un niveau de revenu, alors on n'a pas le niveau de revenu, est-ce que les classes moyennes seront incluses ou pas ? Il s'agirait de 50 euros, payés directement par le Trésor et pas par les régions, pourtant, qui gèrent ces trains du quotidien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Dédéon ? Moi, j'ai dit ce matin que, finalement, on avait eu du quoi qu'il en coûte 2020-2021 et qu'on était en train de le recycler en bouclier tarifaire, en bouclier anti-inflation 2022-2023.
Ben oui, en fait, on peut prendre, je pourrais vous prendre l'angle, ça sous l'angle, est-ce que ça choque mon côté libéral ? La réponse est oui, puisque on est dans la poursuite d'une espèce d'étatisation de la vie des gens,
oui.
Absolument considérable avec de l'argent public. On peut discuter de savoir s'il y aura des frottements d'effets d'agence et ainsi de suite. Donc c'est toujours compliqué d'accepter que l'État va finalement subventionner l'intégralité de notre caddie au supermarché. On peut aller jusque-là et dire à la fin de la journée, le prix du beefsteak est le même pour tout le monde, quel que soit son salaire ou ses revenus, parce qu'on veut que tout le monde puisse consommer exactement la même quantité de choses et on va s'occuper en redistribuant de faire ça. Donc on peut prendre le truc sous cet angle-là et de ce côté-là, ça me choque un peu sur le principe. Après, par rapport aux autres chèques qu'on a vécu en grand nombre depuis le début de cette crise, c'est finalement un chèque qui a l'air d'être un poil plus intelligent que les autres pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il cible quand même, il n'est pas universel.
Celui-là, il est ciblé.
Les ménages
oui.
Les plus modestes, et d'une part, et deuxièmement, il a l'air de dire qu'on est en train de... Enfin, il est à peu près cohérent avec nos objectifs de transition écologique, puisqu'il subventionne plutôt les transports en commun, a priori moins émetteurs de CO2. Ça, j'ai quand même un problème d'exclusion des gens travailleurs modestes qui ont besoin de faire 80 km en voiture dans les campagnes pour aller travailler et qui, eux, sont a priori exclus de cette mesure puisqu'ils n'ont pas de transport en commun qui leur permet d'aller travailler. Et ça, c'est un vrai sujet puisque, au fond, on paye avec des mesures comme ça l'absence d'une réforme territoriale et de revitalisation de nos territoires.
Ah oui, on a pas élargir le sujet
depuis 40 ans.
Voilà. Vous élargir le sujet sur toutes ces problématiques. Mais,
exactement.
Jean-Hervé Lorenzi.
Non, juste une remarque par rapport à ce que vient de dire Jérôme. Je suis évidemment en désaccord absolu avec ce qu'il vient de dire.
Ah, mais alors pourquoi ?
Parce que le sujet, je ne sais pas si cette mesure est bonne ou non, mais en réalité, l'alternative à ce qu'on voit, c'est-à-dire cette prise en charge des revenus, et, notamment pour les revenus les plus faibles, c'est une l'alternative, c'est en réalité une sorte de ce qu'on pourrait avoir, une véritable mécanisme d'inflation, c'est-à-dire que c'est sur les revenus primaires, sur les salaires, qu'on verrait les salaires grimper de la même manière que l'inflation. Donc au fond, on a deux pistes, c'est d'ailleurs pas vraiment décidé. L'une qui est celle de retrouver un mécanisme d'inflationniste extrêmement dangereux, c'est-à-dire indexation, je parle sous le contrôle.
Oui, le fameux effet de second tour dont on a souvent
parlé.
C'est
ça le sujet, où en réalité, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire, ça n'est pas le cas, et comme il y a quand même des gens qui perdent pas mal d'argent, eh bien, on a un transfert plutôt du côté des pouvoirs publics. Il y a deux solutions, aucune des deux n'est parfaite, mais entre les deux, il faut choisir.
Le patch temporaire qu'on peut éventuellement débrancher me semble éminemment préférable à laisser la boucle inflation-salaire se développer. Je suis évidemment d'accord.
Ah, d'accord, ben voilà.
Je vais vous faire réagir, Gilles Berset, parce qu'on avait une discussion et qui va parfaitement dans la continuité de ce que disait Jean-Yves Lorenzi. Il y a Gaulle Volant qui m'écrit chèque vélo, transport, énergie, prime d'activité. Pourquoi l'État ne nationalise-t-il pas directement toute l'économie ?
Un peu ce que vous...
Oui. Non, mais c'est ce qui m'a poussé à dire de manière un petit peu provocatrice que c'est une quasi sixième branche de sécu où le pouvoir d'achat devient un acquis social. Alors effectivement, ça évite la boucle prix-salaire, ça évite la vraie inflation au sens des bouquins d'économie.
Et on découvre en même temps que Mme Truss est en réalité membre du Parti Socialiste des Travaillistes britanniques, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc moi j'adore les critiques, mais...
Il n'y a pas d'autre
solution. Quelle sorte de solution ?
Alors, on verra. Je vous ferai réagir aussi à ce qu'a dit Gabriel Attal sur les barèmes de l'impôt sur le revenu. On a choisi une voie, il y avait une alternative, disait Jean-Yves Lorenzi. On en a choisi une, c'est d'éviter l'effet second tour, Gilles Berset.
Oui.
Je sais que vous avez une analyse qui est un peu dérangeante.
D'abord, juste pour réagir sur le chèque, il est clair que face à un prélèvement extérieur, on paye plus cher nos importations d'énergie, les gains de productivité sont nuls, ne peuvent pas absorber ce prélèvement sur le pouvoir d'achat. On va connaître, en France comme dans les autres pays, une baisse du pouvoir d'achat moyen des ménages par unité de consommation.
Bien sûr.
L'alternative pour l'État, c'est de savoir quel ménage va connaître cette baisse de pouvoir d'achat. Quel ménage temporellement, c'est-à-dire est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on lègue ça à nos enfants par de la dette publique, et quel ménage entre riches et pauvres, etc. Bon. Du côté de... Sur le deuxième point, et je reviendrai peut-être sur le premier, mais sur le deuxième point, riches et pauvres, il est clair qu'une augmentation des prix de l'énergie frappe plus durement les ménages en bas de l'échelle des revenus. Donc, de ce point de vue-là, une intervention publique est tout à fait légitime. Une petite nuance par rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est tout à fait logique, le pouvoir d'achat est plus heurté par une augmentation des prix d'énergie pour les bas revenus que pour les hauts revenus. Alors, un chèque maintenant énergie a les avantages qui ont été évoqués, c'est ciblé, c'est cohérent avec
chèque
nos objectifs...
Transport, là, chèque transport.
Un chèque transport, pardon. C'est cohérent avec nos objectifs climatiques, ça revient moins cher, c'est compatible avec le fait que tôt ou tard, il va bien falloir encaisser une baisse du pouvoir d'achat, c'est clair. Néanmoins, ça ne baisse pas l'inflation. Et ça, il faut l'avoir en tête. Contrairement au bouclier tarifaire, contrairement à la ristourne sur l'essence, c'est pas une mesure générale, c'est une mesure ciblée. À partir du moment où c'est une mesure ciblée, ça n'abaisse pas le niveau de l'indice des prix à la consommation et donc l'inflation. Et du coup, si ça se substitue à une partie du bouclier tarifaire ou à la ristourne...
Ça s'ajoute, hein, là, visiblement. La ristourne,
ça s'ajoute avec
un... censé s'arrêter fin 2022.
Avec un redimensionnement du bouclier qui est encore... d'ailleurs, c'est bien les 15% de hausse des prix qui sont annoncés du fait de la baisse de dimension du bouclier tarifaire. Donc du coup, on a un choc à la hausse sur l'inflation. On passe d'une mesure générale qui baisse l'inflation à une mesure ciblée qui ne baisse pas l'inflation,
d'accord,
qui compense les ménages.
Ça fait des semaines que tous les économistes disent qu'il faut cibler. Alors maintenant,
évidemment, mais
il y a un côté, on n'est jamais content.
Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les dispositions qui ont pour l'instant protégé en partie les ménages français d'un gros choc inflationniste. Hein. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, par exemple, l'inflation, c'est 13,5%.
Oui, c'est ça, j'allais vous dire 12.
13,5%, vous voyez, quand chez nous, pour comparer avec un indice comparable,
6.
L'indice harmonisé, 6,5.
Harmonisé, c'est comparable au niveau européen.
On est vraiment bien en dessous. On est bien en dessous, en bonne partie, du fait de ces dispositions.
Oui, on est d'accord.
Mais on ne peut pas s'en gargariser. Pourquoi on ne peut pas s'en gargariser ? Parce que tôt ou tard, on sera au-dessus. On sera au-dessus en termes d'inflation des autres pays de la zone euro quand ces dispositifs seront redimensionnés, voire supprimés ou bien ciblés. Vous voyez, quand ces dispositifs...
Vous dites qu'on est en train de payer pour attendre.
On est en train de payer pour lisser.
Pour lisser.
Alors, la question qui se posera un jour, c'est de savoir si le mieux obtenu par ce lissage valait les quelques dizaines de milliards d'euros qu'on a consentis pour ce lissage. Pour donner un ordre de grandeur, pour l'instant, le coût du bouclier tarifaire, pour l'instant, c'est à peu près 7 budgets annuels du CNRS. 7 budgets annuels du CNRS. Bon, est-ce que pour le long terme de la France, c'est le meilleur des... J'en sais rien.
Enfin, ce que vous venez de m'expliquer, Gilles Berset, c'est que vous en savez quelque chose, car c'est reculer pour mieux sauter.
En tout cas, tôt ou tard, on se payera ça. Et nous serons plus en France que les autres pays exposés au risque inflationniste.
Gilbert a parfaitement raison quand il indique au début que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va se passer dans les 5-10 ans qui viennent. Évidemment, le pouvoir d'achat, globalement, va baisser pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, y compris la prise en charge, évidemment, de tout ce qui est décarbonation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui va payer. Est-ce qu'on a intérêt à, j'allais dire, essayer de faire payer les revenus les plus élevés ou les patrimoines les plus élevés? Et vous verrez qu'on va revenir sous une forme ou sous une autre, des impôts qui se rapprocheront de l'impôt sur le capital partout dans le monde, hein. Pas particulièrement en France, partout.
Vous êtes en train de me dire que vous imaginez qu'une forme d'ISF va revoir le jour?
On verra bien, mais il va y avoir en tout cas des prélèvements. Ou est-ce que, et à ce moment-là, on essaie de protéger ceux qui ont des revenus les plus faibles. C'est un équilibre qui permet, alors je relance Gilbert sur un terrain qui lui est particulièrement connu. Est-ce que quel est le mécanique sur les 5-10 ans qui viennent qui permet d'avoir en réalité de relancer les gains de productivité et d'avoir de la croissance? C'est ça qui compte au fond.
Les gains de productivité,
dans cette opération.
C'est là que personne ne comprend
après,
aujourd'hui. Hein.
Oui,
ouais,
oui.
Lorenzi, pourquoi on en est avec des gains de productivité si inexistants?
Bah si, on est passé massivement, on a maintenu dans l'emploi et on a même créé beaucoup d'emplois dans des secteurs qui sont des secteurs à faible, très faible productivité. Mais là, bon. Deuxième sujet juste sur les 50 euros, très franchement, c'est pas la fin du monde et c'est pas le même ordre de grandeur.
Il y a combien
mettons qu'il y ait 5 millions de ménages qui vont être concernés.
Minimum oui, 5 à 6 5, qui correspondent au chèque énergie d'aujourd'hui.
Plus,
et puis peut-être davantage.
On passe peut-être à 12, mais...
Oui, mais regardez, si on prend mars 2020, on a mis une perfusion intégrale avec un État assureur en dernier ressort sur les aléas de la vie. Fin 2023, on en sera à 3 années comme ça. Quand vous avez mis 3 années comme ça, vous avez créé une dépendance qu'il est difficile de lever.
Absolument.
C'est quand même très compliqué. J'ai des réactions, je voudrais vous poser une question juste après. Victoria m'écrit, si je comprends bien, on escompte casser l'inflation avec des mesures inflationnistes et en général de la dette qui nous coûte de plus en plus cher, ça ne sent pas très bon. Et Nathalie, mais non, c'est pas assez. Jérôme Dédéian, j'avais une question à vous poser du coup. Parce que Gabriel Attal, hier sur CNews, nous dit on a réindexé le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ce qui évite à certaines personnes de tomber dans l'imposition sur le revenu, ou d'autres de payer plus d'impôt sur le revenu parce que leur revenu aurait augmenté et que le barème serait resté inchangé. Ils disent que ce sont 6 milliards 200 millions d'euros que les contribuables qui payent l'IR n'auront pas à débourser en plus en 2023. On est en train de se dire qu'il faut aider les plus pauvres. Est-ce que c'était pas le moment de dire, qui va payer? La question a été posée depuis le début de cette émission. Effectivement, les gens qui ont le plus vont payer un peu plus en 2023 parce que eux le peuvent. Et donc, on ne va pas leur réindexer le barème sur l'impôt sur le revenu.
Ouais, mais ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous touchez pas au barème, vous vous retrouvez avec des gens qui vont rentrer dans l'impôt. Si vous décidez qu'on garde quand même une forme de proportionnalité dans notre impôt progressif, je ne veux pas faire le mathématicien de base, la bonne décision, c'est évidemment de commencer à réévaluer le barème au fur et à mesure que le coût de la vie augmente. Sinon,
c'est la cohérence économique.
Sinon, vous revenez...
Mais le choix politique aurait pu être différent.
Moi, je n'ai pas de problème avec l'idée que dès qu'on a des revenus, on paye l'impôt, même de façon extrêmement modeste. Alors, il y a un sujet de logique de recouvrement, de coût de recouvrement par rapport à ce que ça rapporte.
62 euros, le recouvrement de dernière.
Fondamentalement, j'ai un problème philosophique avec le fait qu'on puisse être citoyen et pas être dans l'impôt si on a des revenus modulo.
Ils le sont,
Par
le CSG, la CSG.
Oui, CSG, tout le monde l'appelle.
Cette idée que tous les Français payent pas l'impôt est une vision quand même.
Ils ne payent pas tous les impôts, mais je suis
sûr. Non, on parle de l'impôt sur le revenu payé par 48%
Spécifiquement sur l'impôt sur le revenu, si on veut être cohérent Et si on dit, on a fait tout ce travail pour exclure de la base de l'impôt sur le revenu un certain nombre de ménages les plus modestes, et c'est quand même, si je sais compter, à peu près la moitié de la population aujourd'hui, hein, un peu plus que la moitié de la population, et ben, si vous réindexez pas le barème, vous remettez en cause cette logique qu'on a eue d'exclusion de l'impôt sur le revenu.
Oui, mais on aurait pu faire un choix.
De gens dont on dit, leur contribution citoyenne se fait ailleurs, elle se fait sur leur consommation.
On peut réindexer on peut regarder un petit peu le dispositif de manière à ce qu'on ne réintroduise pas les très faibles revenus.
Alors on aurait pu tripatouiller les barèmes.
À titre personnel, j'en suis personnellement très heureux.
Heureux de quoi ?
Je trouve que très heureux du fait qu'on ait réévalué les barèmes. Je pense que c'est absolument contradictoire avec cette idée qu'on protège. De toute façon, il va bien falloir payer à un moment ou à un autre. Les dépenses complémentaires.
Non, mais là, je fais une remarque de gros gauchiste, mais on pourrait plus considérer qu'en 2023, choix politique, on tripatouille la première tranche pour éviter les effets d'entrée.
On est déjà le pays qui a le taux de prélèvement le plus élevé des 39 pays de l'OCDE.
Jean-Hervé vient de nous annoncer que les prélèvements, un jour ou l'autre, allaient monter.
Premièrement. Deuxièmement, on est sans doute l'un des pays, sinon le pays de l'OCDE, dans lequel le taux de prélèvement marginal est le plus élevé.
Oui.
Et dans lequel la progressivité est la plus forte, la progressivité des prélèvements est la plus forte. Moi, je prendrais la question dans l'autre sens. Il faudra baisser les dépenses.
Ah bah.
C'est-à-dire la soutenabilité des dépenses publiques. C'est pas par l'impôt qu'il faut l'envisager. C'est par les dépenses. On est aussi le pays qui dépense le plus en termes de points de PIB. Et les dépenses, eh bien, il faut les regarder. Alors on demande toujours, ah oui, mais quel poste ? L'armée, la police, l'enseignement ? Ben non, il y a des postes.
C'est juste le contraire qui se passe. Cher. On vient d'apprendre hier qu'on mettait 7,5 milliards de dépenses supplémentaires non prévues fin août dans les dépenses d'État en 2023.
Il y a des postes qui coûtent très cher en France et qui peut-être pourront un jour être réduits.
Je pense
entre autres les dépenses des collectivités locales. Je veux dire, on a fait le pari. Depuis sur les trois dernières décennies, gouvernement de gauche, gouvernement de droite, d'augmenter la dépense publique de façon contrôlée par un contrôle des salaires et par des embauches assez fortes, entre autres dans les collectivités. Bon, un jour, il faudra bien revenir là-dessus.
Gilbert, tu as bien traité successivement les dépenses et les recettes. Sur les dépenses, on est mille fois d'accord. Mais l'un n'empêche pas le fait que, quoi qu'il arrive, les dépenses dans les années qui viennent dans tous les pays du monde vont augmenter, y compris parce que on va vouloir décarboner, parce qu'on va vouloir produire sur place, parce que ceci, parce que cela. Et donc, comme il va bien falloir se répartir le fardeau, je trouvais que c'était pas idiot, plus cohérent, qu'on essaye aussi de peut-être augmenter les tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu. Bon. De toute façon, ce sera le cas dans tous les pays.
On clôt le sujet.
On est sans doute le pays dans lequel le prélèvement marginal est le plus élevé.
L'impôt sur le revenu n'est pas en France. On paye beaucoup de charges.
Si tu ajoutes la CSG, on est à plus de 55%.
La CSG,
on est à plus de 55%.
Non, d'accord.
C'est toi qui disais tout à l'heure que c'est un prélèvement sur le revenu.
Et le sujet, on est toujours en délion. Le sujet, c'est qu'on parle toujours du prélèvement supplémentaire avant de parler de la réduction de la dépense. Et donc, c'est vraiment le sujet. Et ça, c'est vraiment le mal français.
Pourquoi ne pas.
Enfin, on va pas le dire. Chaque émission, on n'y arrive pas. Parce que de toute façon, on n'y arrive pas.
Pourquoi ne pas financer les dépenses climatiques par une réduction de la dépense ? Je veux dire, pourquoi envisager forcément, avec un réflexe bien français, une augmentation des prélèvements ?
Alors,
personne n'ose aujourd'hui avancer des hausses de prélèvements. Ce qu'on nous explique, c'est que la vraie réforme des retraites permettrait de créer les économies qui permettent d'aller financer
déjà,
la
produit.
Mais certains considèrent que ce ne sont pas des économies sur les retraites qui ont vocation à être recyclées en financement de la transition verte.
Surtout avant que ça donne l'équivalent de ce qu'on peut souhaiter. Mais juste avant,
on va devoir marquer une pause.
Le sujet est double. Il est que nos dépenses sont trop importantes et par ailleurs qu'elles pose un problème aujourd'hui d'efficacité, que ce soit sur la santé. Donc, le vrai, semble-t-il, le vrai sujet, avant que on lève le drapeau, la baisse des dépenses, c'est l'organisation même de nos dépenses. Oui. C'est pas la RGPP Sarkozy, qui a changé les choses.
La map,
il faut modifier l'organisation à la base de nos systèmes de dépenses.
Il y a Economaniac qui m'écrit: bonheur d'entendre Gilles Berset nous dire que par des mesures ciblées, l'inflation va remonter et donc les minima sociaux avec le SMIC. Vous avez écrit dans Telos, la démonstration brève que vous nous avez faite tout à l'heure, avec les mesures mesures que nous mettons en place, nous ne faisons que gagner du temps avant le jour où l'inflation française dépassera celle de nos voisins.
Oui, et avec un risque bien français, sur lequel je reviendrai si vous le voulez bien, qui est notre système d'indexation du salaire minimum, qui peut présenter des dangers particuliers.
Vous êtes, je le rappelle, président du groupe des experts sur le SMIC. On marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai ce qu'on peut faire en termes de partage de la valeur en urgence, parce qu'Olivier Dussopt nous annonce que dès le budget, là, il y aura des nouvelles mesures de partage de la valeur. Et puis, est-ce que les Britanniques sont en train de nous donner une leçon? Une leçon qui veut qu'il y a la demande d'un côté, mais il ne faut pas oublier l'offre dans le moment que nous traversons, qui est quand même avant tout un choc d'offre, avant d'être un choc de demande. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Jérôme Dédéian, associé de toutsurmesfinances.com et président de Mon Partenaire Patrimoine, du Conseil en gestion de patrimoine pour tous. Et Jean-Hervé Lorenzi, membre du Cercle des économistes, qui préside l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui se tiennent tous les mois de juillet. Et il a coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob, qui a reçu le prix Colbert de l'Institut de France. Bravo. La réaction de Pierre qui me dit, pour éviter la boucle prix-salaire, on met en place la boucle prix-dépenses publiques, l'effet sera le même. Gilbert.
C'est pas complètement faux, hein, puisque pour l'instant, on décale dans le temps. Mais il faut dire qu'on est face à un danger très très particulier en France. Hein. Sur les 39 pays de l'OCDE, 28 ont un salaire minimum national, 4 sur ces 28 ont des clauses d'indexation automatique. Nous sommes le seul à avoir non seulement des clauses d'indexation automatique multiples, infra-annuelles, mais en plus sur une inflation qui est celle du premier quintile de revenus.
Oui, les 20% plus les plus pauvres.
Dynamique que l'inflation générale. Là où l'inflation générale est à 5,9, en France, sur les 12 derniers mois, le SMIC a été relevé sur les 12 derniers mois de 8%. Et le problème, c'est que cette augmentation du SMIC pousse les minima de branche, qui eux-mêmes poussent les négociations salariales. Mmh. Et on est là face à deux risques extrêmes. Premier risque, ça ne se répercute pas sur l'intégralité de l'échelle des salaires. Ces hausses du SMIC et des minima salariaux. Et alors, il y a plein de gens qui voient leur salaire tassé
vers le SMIC.
Ce qui est démoralisant. C'est frustrant, il n'y a pas de mobilité salariale. Et puis, ça coûte cher à l'État, parce que ça augmente la masse salariale éligible aux allègements de contributions sociales. Le risque alternatif, c'est, ça se répercute sur l'intégralité de l'échelle des revenus, 8% hein, d'augmentation du SMIC sur les 12 derniers mois. Et là, c'est un coût en termes de compétitivité, d'offre, et donc de chômage. C'est ce qu'on a connu à la fin des années 70, au début des années 80. C'est pour ça que le gouvernement Mauroy, gouvernement de gauche, avait pris la décision à l'époque d'interdire l'indexation des salaires sur les prix. Faut le rappeler, hein. En 1983, c'est le gouvernement Mauroy, avec Delors au ministère de l'économie et Mitterrand à l'Élysée, qui avait interdit l'indexation des salaires sur les prix pour sortir de cette boucle prix-salaire. Et donc on est entre ces deux risques extrêmes. Est-ce qu'on va être plus près du tassement, avec un coût pour les finances publiques, des frustrations pour les salariés?
Ou alors un emballement salarial.
Est-ce qu'on va être plus près de l'emballement avec un coût en chômage? C'est-à-dire, est-ce qu'on le paye en salaire et en frustration, ou est-ce qu'on va le payer en chômage? Et nous sommes en France plus exposés que tout autre pays de la zone euro à ce risque-là.
On va évoquer justement...
C'est pour ça que le lissage fait sens. Hein.
C'est très important,
Monsieur Gilbert, et vraiment la compétence. D'abord, la parole du comité sur que tu présides est importante sur ce sujet-là. Pour le moment, ce mécanisme inflationniste traditionnel. Mais là où tu as mille fois raison, c'est d'indiquer à quel point c'est un mécanisme d'écrasement des bas salaires et la frustration pour les gens qui sont juste au-dessus du SMIC. Revenir là-dessus, c'est vraiment un sujet absolument majeur et je suis mille fois d'accord avec ce que tu viens de dire.
Heureusement qu'il a été rappelé à M. Lorenzi qu'il faut compter la CSG dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
Bien sûr que c'est moi qui l'ai dit.
C'est Richard qui m'écrit ça.
Et si vous me permettez d'ajouter
on va
un chiffre,
Gilbert. Hein,
un chiffre. La France est le pays de l'OCDE dans lequel le ratio entre le revenu d'une personne, un célibataire à temps plein au SMIC, et puis le revenu d'un célibataire toujours à temps plein au salaire médian, ce ratio est le plus élevé. 80% en France. 80% en France. C'est-à-dire que quelqu'un, vous voyez, qui part du plus bas de la hiérarchie des salaires, qui traverse la moitié de cette hiérarchie des salaires, c'est un effort incroyable, hein, traverser la moitié. Il passe de 80 à 100. Ailleurs, le gain salarial est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, chez nous, le gain de la mobilité salariale est très faible. Pourquoi ? Ben, y a beaucoup de prestations, énormément de prestations, qui évidemment sont dégressives, parce que sinon, ça reviendrait...
Avec en tête la prime d'activité.
Très cher. Oui. Y compris, entre autres, la prime d'activité.
D'où l'idée que c'est majeur. Non, c'est majeur ce qui est dit, mais comment on change un modèle dont avec des revenus qui sont quand même des salaires, bas salaires qui sont assez faibles, et un mécanisme de transfert par l'État qui est massif. Non, mais c'est toute une société qui fonctionne.
J'ai une réaction d'auditeur. C'est même un business model du pays. C'est la valeur ajoutée de ce qu'on produit. Donc ça, c'est une question de valeur ajoutée. C'est absolument. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée, parce qu'on a de plus en plus de production à valeur ajoutée. Donc c'est un problème de modèle économique du pays, et ça commence à l'école. Enfin, voilà.
J'ai une réaction d'auditeur qui me fait la transition que j'attendais. Il s'appelle Sally, mais enfin, le sujet du partage de la valeur ajoutée est abordé par le gouvernement. Ce n'est qu'à travers ce sujet crucial que nous pourrons réduire l'étatisation de la vie des Français de manière durable. Olivier Dussopt annonce hier qu'il y aura des mesures de partage de la valeur dans le budget. Et il est mercredi prochain au Conseil des ministres, Jérôme Dénion. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça en urgence ?
Alors, on fait les deux trucs, parce que beaucoup a été fait ces dernières années. Hein. Je vous rappelle que le coup d'arrêt à l'extension du domaine de la lutte en matière de partage de la valeur, ça a été la création du forfait social par Nicolas Sarkozy et puis son passage à 20% monstrueux en août.
Je rappelle, c'était la fiscalité qui accompagnait les mécanismes d'intéressement et de participation.
Voilà, la taxe crétine qui pénalise les employeurs qui partagent. Voilà,
Presque plus quand même,
elle a quasiment disparu pour les petites boîtes, mais pas complètement. Donc évidemment, la mesure à court terme qu'on peut faire, c'est finir de le supprimer, lui tordre le cou définitivement pour relancer les choses, puisque je rappelle que ça avait eu un impact sur la baisse des montants versés par les entreprises qui étaient soumises. C'est mécanique, ça a été prouvé, et dans des belles boîtes, pas seulement chez des patrons voyous. La deuxième chose, c'est que ça fait des années qu'on tourne autour de la réforme de la participation aux bénéfices. C'est un sujet que je connais par cœur.
Ah ben vous connaissez par
cœur. J'ai fait probablement 7 ou 8 campagnes de lobbying en 20 ans, chaque fois que le sujet était ouvert par un gouvernement, en allant voir les cabinets ministériels, l'Élysée, Matignon, les parlementaires, pour dire voilà les bases d'une remise au carré, d'une adaptation de la formidable formule de participation quand elle a été créée par Michel Debré, le général de Gaulle, qui correspondait à l'état de l'économie à l'époque, au fait que le bénéfice fiscal était la même chose que le bénéfice comptable, parce qu'on ne l'avait pas encore mité par tout ce que les crédits d'impôt et autres joyeusetés du même genre. On sait exactement, c'est documenté, c'est calculé, pourquoi on pourrait remettre d'équerre cette formule, pour qu'elle donne plus, pour qu'elle corresponde à la création de valeur des entreprises, parce qu'aujourd'hui, le résultat de la formule légale, c'est qu'il y a des boîtes qui gagnent de l'argent qui n'en versent pas, et des boîtes qui ne gagnent pas d'argent qui sont obligées d'en verser. Donc c'est totalement aberrant. Et on s'est toujours enlisé dans des débats de vraiment d'apothicaire sur oui, mais au sein d'un secteur ou d'une région, il y en a qui vont payer plus, d'autres moins, donc il faudrait, etc., etc. Il y a un truc très simple à faire. On réforme la formule de participation, point 1.
C'est pas ce que Thibault Langsade a préparé ?
On descend, il n'a pas été écouté pour le moment, descend l'obligation de versement de la participation, plus dans le bas, on est à 50 salariés aujourd'hui. La dernière fois qu'on a fait un saut quantique dans le partage de valeur, c'est quand on est passé de 100 à 50 salariés pour l'assujettissement à la contrainte, mais avec une modification de formule. On libère les boîtes qui sont en dessous de la contrainte de verser la formule légale, parce que parfois c'est trop. Vous avez des boîtes qui ne peuvent pas se permettre un modèle économique qui ferait que ça ferait trop. Et le dernier point qui est essentiel, c'est que pour accompagner celles qui vont donner plus et donner moins, puisqu'on a une cible qui est plus vertueuse une fois qu'on a modifié, on fait une transition, de 5 ans, où on dit année 1, je verse 100% de l'ancienne formule, année 2, je fais 20% de la nouvelle, 80% de l'ancienne, et on accompagne ça. Et puis les boîtes sont suffisamment intelligentes pour ajuster leur structure de coût, leur machin, pour que ça colle.
Voilà. Vous voulez pas faire une sixième campagne de lobbying ?
Tout ça a été dit, redit, documenté. J'ai des notes épaisses comme ça. Je l'ai mise à jour 7 fois dans ma carrière, et à chaque fois, on s'est enlisé. Voilà.
C'est peut-être que dans le budget, on verra apparaître Parce que Thibault Lanxade l'a appelé le dividende salarié. Non, il a imaginé un peu ce que vous me décrivez, je crois, mais c'est assez complexe. À la demande du président de la République, qui lui avait confié la mission de...
C'est pas tout à fait...
Bravo. Non mais bravo, l'exposé...
Et Jérôme, il faut absolument que tu fasses une sixième campagne, parce que c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'à l'évidence que nous souhaitons tous, c'est que le mécanisme inflationniste, donc cette course-poursuite entre les prix et les salaires, n'ait pas lieu. Et donc, évidemment, ça va quand même réduire le pouvoir d'achat, ce que Gilbert a dit. Donc, il est clair que par d'autres moyens, il faut arriver à recanaliser un peu de financement. Et alors, Thibault Lanxade avait sorti quelque chose qui est un tout petit peu différent, mais qui n'est pas du tout contradictoire.
On va pas rentrer dans la tuyauterie, dividende salarié,
Mais c'est absolument fondamental. Et ça, c'est une mesure. Alors, si M. Dussopt a ça en tête, bravo.
Alors, on peut dire.
Gilbert Sept.
Oui, juste sur ce point, c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup écrit avec Jacques Barthélémy. On a été les partisans très très forts, très actifs, effectivement, de la participation. Et la participation, par rapport à la prime Macron et par rapport à l'intéressement, la participation offre un avantage spécifique qui est que l'assiette de la participation, c'est le bénéfice des entreprises. Alors, il faudrait le définir, la formule est à simplifier, mais c'est le bénéfice des entreprises. Ça veut dire que ça marche, tout le monde en profite. L'entreprise, ses actionnaires, ses propriétaires et les salariés via la participation. Ça ne marche pas, tout le monde y perd. Et c'est ce qui est intéressant dans un pays comme la France, qui est le pays dans lequel la conflictualité est la plus élevée de tous les pays développés. Quand on compare la France avec les autres pays de l'OCDE, pour le nombre, par exemple, c'est un symptôme, de jours perdus pour grève ou arrêt collectif de travail, on est en tête. Voilà. On est en tête sur les deux dernières décennies. Il y a une conflictualité incroyable. Eh bien, la participation offre aussi comme vertu, je veux dire, de créer des intérêts communs entre capital et travail et de réduire cette conflictualité. Tout le monde est dans la même barque, en quelque sorte, via la participation.
Exactement. On referme le sujet, on vient de parler du côté variable, qui est remarquable, mais l'autre truc, c'est que la participation, ça n'est pas qu'un flux financier. C'est aussi un flux d'informations et de dialogue autour de la marge des affaires. Quand c'est bien utilisé, dans les boîtes qui font la pédagogie, et le dialogue avec les partenaires sociaux, avec les salariés, sur comment on peut faire pour améliorer la performance de l'entreprise et que tout le monde en profite, il naît de cette perspective possible de flux financier, et c'est pour ça qu'il faut pousser comme
juste un point. Et on referme
juste
après.
L'auditeur a trouvé que c'était très important. Il a raison. C'est le principal sujet de l'économie politique. Depuis Ricardo, c'est le partage salaire-profit. C'est fondamental. En France, je vous rappelle que l'ensemble des revenus du capital, c'est 32%. Il y a un équilibre qui est celui qui est le plus porteur de croissance. Il est clair que si on s'aperçoit que j'allais dire, au-delà de ce mécanisme de la participation dont vous dites, à juste titre, je partage mille fois ce que vous avez dit, que c'est le plus efficace, c'est très efficace, pour peu qu'on le modifie, on modifie les règles, il est clair que ça va permettre vraisemblablement de rééquilibrer finalement un partage salaire-profit qui ne serait pas très favorable à la croissance.
Will m'écrit, tous les ans, mon patron sabre le champagne pour un chiffre record et on n'en voit jamais la couleur, dit-il. Faut-il prendre exemple sur ces gauchistes britanniques qui décident de prendre en charge une très grosse partie de la facture d'énergie des ménages et désormais de payer la moitié de la facture d'énergie des entreprises pendant l'hiver, pendant 6 mois? C'est limité dans le temps. Tandis qu'en France, Arc a annoncé qu'ils allaient réduire, voire fermer la production. Idem pour Duralex, idem pour l'aluminium Dunkerque, idem dans le secteur des engrais. Lactalis indique que sa facture d'énergie de 500 millions d'euros sera d'1 milliard en 2023. Il y a les signaux rouges qui s'allument partout au-dessus des entreprises. Alors aujourd'hui, Bruno Le Maire doit normalement annoncer des mesures d'aide pour le secteur du BTP. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut en mettre encore davantage pour être aussi un peu du côté de l'offre et alléger la facture d'énergie des entreprises qui va exploser en 2023? Quelqu'un a une opinion là-dessus?
Jean-Hervé Lorenzi. Enfin, les chiffres que vous évoquez sont très révélateurs. Moi, hier, j'étais avec des chimistes. C'est hallucinant. Hein, le coût sur ce qu'elle va représenter, il est clair qu'il faut faire quelque chose. Là. Après, on est toujours, oui ou non, binaire. Donc c'est il faut voir ce qu'on peut faire. Madame Truss, qui se révèle effectivement une socialiste très 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 forte, a raison d'équilibrer des mesures de demande et des mesures d'offre. Les mesures d'offre, elles sont majeures, elles sont pas encore au point dans notre pays, et il faut absolument le faire, sinon on va avoir les résultats. Je rappelle que la production industrielle a baissé en juillet, il faut faire très très attention une fois de plus à la croissance et à la réalité de ce qu'on fait en termes d'activité dans notre pays.
Ma réaction de chef d'entreprise là-dessus, c'est que c'est quasiment une mesure d'économie de guerre, puisque fait, ce qui se passe, c'est que si votre outil industriel est obligé de s'arrêter et que vous ne pouvez pas le faire redémarrer pendant une période longue, vous allez le détruire, parce que faire redémarrer des outils industriels de cette nature-là, s'ils ont été fermés pendant longtemps, c'est vraiment très compliqué. Donc vous risquez vraiment la désindustrialisation, l'incapacité à rouvrir. Il y a un deuxième type d'entreprise sur lequel je voudrais juste dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe. Vous savez, mon exemple très concret de ma boîte de confiture haut de gamme dont je m'occupe, la Cour d'Orgère, là, on a pris 800% sur le gaz sous les bassines, d'accord, 800% d'augmentation. On a pris 150% sur le verre, 50% sur les fruits. Donc ça vous donne une idée de l'explosion de nos coûts de production cette année. Non. Vous essayez évidemment, autant que faire se peut, parce que votre qualité est bonne, parce que vos clients sont fidèles, de répercuter une partie de cette hausse de vos coûts de production pour maintenir vos marges sur vos consommateurs, mais il y a un moment où le prix psychologique du pot de confiture vous atteint à la limite du panier de la ménagère, pour la faire courte. C'est vraiment très concret, là c'est hyper terre-à-terre. Et donc il n'y a pas que les chimistes, les producteurs d'acier, d'aluminium, verre, etc. Il y a aussi notre tissu de TPE et de PME artisanale qui se prend ce choc en attendant que le prix de l'énergie revienne à la normale pour cause de récession, pour cause de capacité de production ou de flux qui se remettent d'équerre au niveau mondial. Il y a peut-être quelque chose à faire en économie de guerre aussi, très concrètement, pour ces entreprises-là.
J'avance. La Fed, 75 points de base. On n'a pas eu 100 points de base comme certains commençaient à le redouter. 75 points de base. Bon, le message, je vais droit au but, on a 11 minutes, je voudrais quand même qu'on dise aussi peut-être un mot des retraites. Jay Powell a tranché. Entre le chômage et la lutte contre l'inflation, je choisis la lutte contre l'inflation, donc le chômage aux États-Unis va augmenter. Il est de 3,7% à la fin du mois d'août, et il nous dit, fin 2023, il sera à 4,4% le taux de chômage. Mais parce que j'ai besoin de freiner l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a raison ? Entre les deux, il dit on peut pas. Alors Jean-Marc Daniel disait ce matin, finalement le mandat de la Fed est un mandat bancal qui n'est pas tenable, car le mandat de la Fed c'est lutte contre l'inflation et emploi et croissance. Et ben les deux réunis c'est pas possible. On peut pas avoir les deux.
Il expliquait que la courbe de Phillips avait préparé. Moi je vais faire de Nicolas Dose.
Ah bon, alors allez-y.
Nicolas Dose que j'écoutais scrupuleusement ce matin, disons que Monsieur Powell a raison, parce que on voit bien l'ampleur des deux sujets. En réalité c'est un problème de balance, il faut trouver. Mais Nicolas Dose, le même Nicolas Dose, avait, avec à juste titre, dit attention à ce que ces mesures ne créent pas une récession mondiale. C'est-à-dire qu'il expliquait à quel point, avec justesse, donc tout est une question de mesure. L'économie politique, c'est la mesure, c'est pas oui, non, c'est savoir jusqu'où on va.
C'est ce que dit Stiglitz, hein. Arrêtez-vous, il y en a assez.
Non, lui dit que l'inflation, de fait...
Que maintenant, l'inflation va se résorber toute seule et qu'il faut arrêter de monter les taux.
Donc, s'il a raison aujourd'hui, s'il poursuit, parce qu'il avait un discours quand même assez guerrier dans cette affaire,
il
faudra peut-être lui donner un peu de l'exomil, c'est tout.
Camomille pour Jay Powell.
Sur les taux, on en est encore à des niveaux de taux qui sont relativement bas. 3,325.
On va pas être très loin du taux neutre aux États-Unis.
3,325. Et puis là, on est sur les taux courts. Il y a évidemment les mesures qui peuvent concerner les taux longs, à savoir ce qui se fait du côté de la dette publique et au bilan de la Fed. Est-ce qu'il y a réinvestissement ou pas ? Ou est-ce qu'il y a l'engagement d'un non-réinvestissement et d'une baisse de ce volume de titres qui est au bilan de la Fed ? Et dans ce cas-là, les taux longs pourraient augmenter. Donc, il y a différents leviers d'action. Bon, la Fed est dans son mandat. Encore une fois, les banquiers centraux ont des mandats, sont nommés pour être indépendants et ne pas être soumis à une quelconque pression politique, justement, avec comme objectif unique dans d'autres pays que les États-Unis de lutter contre l'inflation, contre une inflation trop forte. Aux États-Unis, il y a un mandat double, mais le mandat chômage est spécifié sans préjudice du mandat de la partie inflation, en quelque sorte. Et cette partie inflation,
4-4 de chômage, c'est pas
compte tenu des coûts de l'inflation à moyen et long terme, hein, qu'on a pu voir dans les années 70, faut bien voir qu'on pourrait le payer beaucoup plus cher en chômage si on laissait l'inflation sortir complètement du tube de dentifrice, pour reprendre une expression usuelle.
Vous avez un avis là-dessus,
Alors moi c'est toujours compliqué.
La BCE, c'est différent comme situation. On parle
toujours
de
compliqué
la Fed,
pour
là,
moi, pauvre entrepreneur, de parler devant des économistes aussi compétents de ces sujets aussi complexes. Je vais juste me mettre dans la peau de Monsieur Powell. Monsieur Powell, il fait exactement qu'est-ce qu'il se dit. Il se dit, j'ai pas encore cassé les anticipations d'inflation, donc je risque, compte tenu de la surchauffe de mon économie, la boucle inflation salaire, donc je vais y aller franchement, et je vais continuer à dire que je vais y aller franchement pour casser ces anticipations-là. Quitte à ce que j'accepte temporairement une dégradation du marché de l'emploi qui, de toute façon, est en surchauffe, puisqu'il y a encore des problèmes de recrutement aux États-Unis.
Voilà,
on est vraiment
on est
pas loin du chômage, du fond de cuve, du chômage structurel aux États-Unis en ce moment. Voilà. Alors, et M. Powell, il peut le faire. Pourquoi ? Ben parce que c'est M. Powell. Et donc, voilà, si je suis Mme Lagarde, je suis moins à l'aise dans mon costume de banquier central. Pour une raison extrêmement simple. Non, mais pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a quand même un enjeu. C'est qu'en faisant ça, Powell, il exporte son inflation. Et que nous, on est obligé de suivre, parce que sinon l'euro décroche. Alors, on n'a pas du tout le même substrat économique que la surchauffe américaine.
Et donc, il obtient l'effet voulu sur le dollar.
Voilà. Et donc, il y a une responsabilité, comme le dit très bien, comme ça a été très bien dit, il y a une effet de responsabilité des États-Unis d'exporter pour que ça aille mieux chez eux leurs problèmes, mais jusqu'au moment où ça ne fait pas péter l'économie mondiale.
Voilà. Non, le discours du Conseil des gouverneurs de la BCE est relayé évidemment par le gouverneur de la Banque de France dans toutes ses interventions, et de dire nous ferons ce qu'il faudra faire pour ramener l'inflation vers sa cible. Et ça, le fait de le ramener, l'objectif, c'est de l'avoir ramené à la cible en 2024, à la fin de l'année 2024. Bon, la route est longue, mais en tout cas, le propos est d'une dureté. Il est très clair, hein, ils sont mandatés pour ça. Leur mandat est celui-là.
Deux remarques par rapport à ce que Gilbert a dit. La première, c'est que c'est vrai que les taux sont encore relativement faibles. On oublie toujours que quand Carter cède la place à Reagan, le taux d'inflation est de 15% aux États-Unis, même légèrement plus, et les taux d'intérêt sont très élevés. Donc on est encore sur des choses.
C'est vrai.
Le sujet que tu as évoqué tout à l'heure sur les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire sur la politique à mener, notamment pour la BCE, éviter que, non pas la Malte ou la Grèce, mais que l'Italie se trouve dans une situation très difficile, ça rend la tâche de nos gouverneurs bien-aimés de la BCE un peu plus compliquée.
6 minutes 20, votre avis sur les retraites, et Elisabeth Borne voit les groupes parlementaires aujourd'hui pour parler de ça, le président de la République demain pour parler de ça. Plus les jours passent, plus l'hostilité est unanime vis-à-vis de cette réforme, et notamment la méthode retenue qui consisterait à passer en force démocratiquement. Oui. Évidemment, un amendement c'est démocratique, le 49-3 c'est démocratique, mais dans le contexte du moment, ça passe pas. Comment vous regardez ce sujet, Gilbert Sept?
Oui, je crois que ce domaine des retraites est celui d'une hypocrisie généralisée et permanente. Je prends l'exemple des réformes antérieures. Les réformes antérieures se sont toujours ont toujours reçu une opposition, mais d'une violence incroyable de la part des gens qui n'étaient pas à la gestion des affaires, qui, une fois qu'ils sont passés à la gestion des affaires, ne sont surtout pas revenus.
C'est vrai, ça.
Sur ces réformes.
C'est vrai.
Donc
c'est
il faut,
très vrai. Chacun
il faut,
fait
il faut
sa réforme, mais
il faut
quand même
le souligner.
Jamais, hein.
Tout le monde s'oppose aux réformes des retraites, mais une fois qu'elle est là, tout le monde est content qu'elle soit là, et personne ne revient là-dessus, si jamais il y a une alternance politique. Alors, on comprend tout à fait, on est en débat sur les retraites depuis maintenant 4 ans. Je crois que,
depuis 50 ans.
Ah oui, depuis 50 ans, mais ça a été accru. Ça a été accru sur les 4 dernières années. Je crois que tous les éléments du débat ont été sur la table, ont été discutés, etc. Maintenant, c'est le passage à l'acte. Je pense qu'on n'a pas besoin de mois de discussion et de débats supplémentaires là-dessus.
Juste un mot. Gilbert a raison sur l'hypocrisie. Je rappelle juste que des réformes des retraites, on en a eu beaucoup. Si on n'en avait pas eu, celle de 93 que les retraités vont commencer à sentir de manière forte la réforme Balladur, en réalité, on aurait 3 ou 4 points de plus de PIB pour les retraites. Donc, moi, je pense que tout ça va avoir lieu. Est-ce que c'est fait de manière très habile pour le moment? Évidemment, non. D'abord, la première était incompréhensible. Je pense que M. Delevoye lui-même n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait.
Je me suis posé la question, j'aurais de savoir si même lui arrivait encore à suivre le truc. Parce que...
Et deuxième sujet, deuxièmement, mettre en avant les évolutions sur les annuités, mettre en avant... Je veux dire, il y a mille manières de le présenter de manière plus forte, et Je rappelle que le sujet majeur, c'est qu'entre 60 et 63 ans, il n'y a que 36% des gens qui sont en activité. Donc, on peut, parce que ça, c'est un dispositif qui est le dispositif des entreprises. En réalité, chiffre encore plus significatif, entre 55 ans, on est en forme à 55 ans, et 63 ans, 64 ans, 56% ne sont en activité. Donc, on voit bien qu'il y a quand même aussi, c'est un problème qui dépasse l'idée qu'on rajoute un an ou deux, il faut aussi qu'on considère que les gens aient des activités plus longtemps, et ça, c'est aussi du côté des entreprises que ça se passe.
Jérôme Dédéant, par rapport à ce sujet.
Sous l'angle politique, comment peut-on se mettre dans un corner pareil ? On est élu pour un deuxième mandat, on va dire, confortablement, pas confortablement, taux d'abstention, etc. En tout cas, on est élu et on a dit qu'on réformerait les retraites. Donc on a une fenêtre unique pour faire cette réforme, essentielle, pour nos partenaires, pour la crédibilité de nos finances publiques, pour c'est le ça, fonctionnement de notre économie et de notre société. On peut la faire dans la foulée de son élection et on peut la faire avec les moyens constitutionnels dont on dispose, qui peuvent être des ordonnances, qui peuvent être du 49-3, en engageant la responsabilité du gouvernement, parce que normalement, au début du quinquennat, on arrive quand même à assembler sa majorité. Et en même temps, on met un Conseil national de la refondation pour expliquer qu'on va tout discuter à côté du Parlement en parallèle, en introduisant une confusion supplémentaire, et on lance des ballons d'essai en disant qu'est-ce que vous penseriez du fait que je le mettrais dans un amendement qui je ne sais quoi, et on est sûr que le résultat se produit, tout le monde est vent debout et on se retrouve coincé. Comment peut-on se mettre dans cette situation?
Oui. Alors, Gilles Berset. Deux petits points, si vous m'y autorisez. Deux petits points. Cette réforme des retraites ne fera que nous rapprocher de ce qui existe dans la quasi-totalité des pays autour de nous, en particulier les pays dont on considère qu'ils sont les plus sociaux. Les pays de l'Europe du Nord et Scandinave, hein, ne fera que nous rapprocher. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans une période où les gains de pouvoir d'achat sont menacés, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas de gains de productivité pour les financer, et la seule alternative, c'est est-ce qu'on se paye du pouvoir d'achat maintenant au détriment de nos enfants ou pas. Mais la réforme des retraites fait partie des réformes qui peuvent contribuer à l'augmentation du pouvoir d'achat. Pour la même population, on peut produire plus, on peut avoir plus de PIB. Et le débat consistant à dire « oui, mais la réforme des retraites ne doit pas être utilisée pour financer d'autres choses » est un faux débat. Parce que non seulement la réforme des retraites concourt à l'équilibre des régimes des retraites, mais par ailleurs, par plus de PIB, ça fait plus de recettes de TVA, plus de recettes d'impôts sur le revenu, plus de recettes d'impôts sur les sociétés, et ce plus de recettes en dehors des prélèvements
pour financer... Plus de partage du profit.
Plus de partage du profit, eh bien ça permet de financer des dépenses publiques d'avenir.
Cela dit, les Français qui ne sont pas, ils n'ont pas tous les défauts du monde, ils sont loin d'être stupides, ils ont compris que les retraites vont baisser de manière assez significative. Moi, j'ai des tas de calculs qu'on a fait qui montrent quand même que ça va être, que Balladur va frapper forte 25 ans après. Et donc, on est déjà en sortie à
62,8.
62,9. Oui. Jean-Hervé, une année comme l'année 2022, qui gagne le plus? Celui qui a sa retraite indexée sur les salaires, comme c'était le cas auparavant, ou celui qui a sa retraite indexée sur l'inflation, comme c'est le cas maintenant? Je crois que les salaires ne suivront sans doute pas l'inflation. Je pense que les retraités sont gagnants par rapport aux salariés, quand même, malgré tout. 2022-2023.
On est d'accord. Oui, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que on peut faire le truc de manière subtile, plus habile. Moi, je suis mille fois d'accord avec Jérôme, non seulement politiquement, mais même dans la présentation des réformes. Et tu as raison de dire, quoi qu'il arrive, l'opposition ou les oppositions expliqueront que c'est pas possible. Ça fait quatre fois que ça s'est fait, et quatre fois les réformes ont été d'ailleurs très efficacement mises en place.
La remarque de Gilbert est quand même très... L'hypocrisie est fantastique. Chaque fois, celui qui est de l'autre côté est contre la réforme qu'on lui propose, et quand il est aux affaires, il garde,
absolument,
il garde la réforme sous le coude, parce que s'il est bien content qu'elle ait été faite et
assumée. Je rappelle qu'avec Mme Touraine, on arrive assez facilement aux 65 ans.
Personne ne revient sur le Touraine, hein, d'ailleurs.
D'ailleurs, il va continuer à produire ses effets, et tant mieux, mais il faut en mettre une.
Mais il est possible que l'amendement accélère le calendrier.
On a fini. Oui, mais dans la couche de plus qu'on doit mettre, il y a aussi la fin du hold-up générationnel des boomers sur le reste de la population plus jeune. Si on veut donner un message convenable à nos enfants, hein, qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, c'est le cas des miens, il faut quand même qu'on leur explique que, alors je ne vais pas me mettre dedans parce que je ne suis pas boomer, mais je pourrais, qu'on va rééquilibrer un peu cet extraordinaire hold-up qui a eu lieu
intergénérationnel. Je suis d'accord, mais ils étaient
Gilles Berset,
majoritaire
Jérôme,
aujourd'hui dans
les Néant. Je qui décide, et malheureusement, ils nous plantent le moral de nos enfants.
Lorenzi, demain, 9h, rendez-vous à demain.